18-20.
Le 18-20 ce soir sur la réforme du marché du travail. Elle a été annoncée pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron et réaffirmée aux syndicats et au patronat aujourd'hui à l'Élysée. Calendrier, le plus rapidement possible, dès le début du quinquennat. Méthode, en recourant à des ordonnances. Contenu, beaucoup de choses qui vont du plafonnement des indemnités prud'homales à la prédominance de l'accord d'entreprise sur l'accord de certaines branches. L'ensemble visant, si j'ai bien compris, à flexibiliser le marché du travail. Alors que pensez-vous de l'ensemble de ces mesures, de la méthode, du calendrier? Pensez-vous, si vous êtes salarié, perdre des droits? Et si vous êtes du côté des entreprises, gagner une souplesse qui vous faisait peut-être défaut? Vos questions, amis auditeurs, jusqu'à 20h.
Nicolas Demorand, le téléphone sonne.
Twitter avec le mot-clé Telson, franceinter.fr et le 01 45 24 7000. Pour ouvrir ce téléphone sonne, je salue Brigitte de Strasbourg. Bonsoir.
Bonsoir, je suis ravie d'apprendre qu'il fait soit abordé. J'ai peut-être une question qui n'a rien à voir. Ordonnance 49.3, qui décide de quoi? Et s'il y a balance entre les deux, qui fait quoi? Comment ça se passe?
Merci Brigitte pour cette question donc sur la différence entre le 49.3 et les ordonnances. Pour vous répondre et dialoguer avec vous ce soir, je salue Raymond Soubi. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Véronique Descaques, bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire générale adjointe de la CFDT. Dominique Seux, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste Échos à France Inter le matin. Qui veut répondre la différence entre le 49.3 et les ordonnances? J'imagine que c'est bonnet blanc et blanc bonnet dans l'esprit de notre auditrice Brigitte, aussi brutale et efficace dans les deux cas. Raymond Soubi.
Ah ben, une différence importante. Le 49.3, c'est une disposition par laquelle un gouvernement peut faire passer un projet de loi en application de cet article. En engageant en quelque sorte sa responsabilité. Donc il passe en force et tous les articles sont supposés accepter si sa responsabilité, s'il n'est pas renversé en fait par l'Assemblée. Mais c'est limité parce qu'un gouvernement a le droit à 1,49,3 par an, dont plus 1 par session parlementaire. Quant aux ordonnances, c'est très républicain, si vous me permettez les ordonnances. Vous avez une loi d'habilitation qui est soumise au Parlement, qui indique les domaines sur lesquels le gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances, qui définit quelques orientations. Le Parlement vote cette loi, donc il y a un vote du Parlement, à la différence des 49.3. Le gouvernement est habilité, il édicte ses ordonnances, et dans un deuxième temps, dernier temps, ces ordonnances doivent être ratifiées à leur tour par le Parlement.
Mais vous voyez bien l'idée, à mon avis, sous-jacente à la question, c'est qu'on a là deux formes rapides, on va dire, et brutales, entre guillemets, d'exercice de la réforme. Véronique Descaques.
Je dirais, pour le dire d'une façon moins juridique que Raymond Soubi, le 49.3, c'est quand on n'a pas de majorité parlementaire et qu'on veut un petit peu forcer le destin en engageant sa responsabilité. Et les ordonnances, c'est on a cette majorité, mais on veut aller vite, et donc on veut s'éviter des débats parlementaires longs, des allers-retours entre les chambres, etc. On a une majorité parlementaire, mais on a besoin d'aller vite. En quelque sorte, c'est ça. Donc, ce que nous, on dit à la CFDT, c'est que finalement, c'est une procédure qui concerne peu les organisations syndicales, mais plutôt les relations entre le gouvernement et sa majorité parlementaire. Et nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on demande, c'est d'avoir le temps avant la loi d'habilitation par ordonnance, d'organiser les concertations avec le gouvernement pour qu'on discute ensemble de ce qu'on va mettre dans ces textes.
Donc la méthode n'est pas un casus belli pour vous à la CFDT?
La méthode serait un casus belli s'il n'y avait pas de concertation. C'est la concertation avant les ordonnances, c'est pas
alors,
les ordonnances.
Je précise, si vous n'avez pas de religion sur le vecteur que sont les ordonnances, sur le vecteur de la réforme.
Le vecteur législatif, pour nous, c'est quelque chose qui regarde le gouvernement avec sa majorité parlementaire.
Si Emmanuel Macron veut recourir aux ordonnances, c'est qu'il considère que le débat a déjà en partie eu lieu, à la fois dans la campagne électorale, il a annoncé ce qu'il devait faire, ce qu'il voulait faire, et déjà à l'occasion de la loi El Khomri. Il a été frappé manifestement par le fait que les deux derniers grands textes du quinquennat Hollande, la loi El Khomri et la loi Macron, ont dû pris un temps assez considérable qui révèle quand même un certain dysfonctionnement de notre système institutionnel. constitutionnel. La loi Macron a été évoquée pour la première fois en juillet 2013. Les derniers décrets, l'ouverture des magasins sur le boulevard Haussmann le dimanche, c'est printemps 2017. Donc ça fait 4 ans. La loi El Khomri, c'est d'abord...
C'est pas le temps de la démocratie, Dominique Seux.
4 ans, c'est beaucoup, quand même. 4 ans, c'est beaucoup pour des
c'est
sujets...
C'est peut-être le rythme de la démocratie, non?
Pour l'ouverture des magasins le dimanche du boulevard Haussmann, ça semble quand même beaucoup. C'est pas non plus la déclaration de guerre, c'est pas un sujet considérable. La loi El Khomri, on en a parlé au début avec plusieurs rapports, hein, le rapport Combrexet, Badinter, etc. 600 jours. Bon, c'est
la loi
considéré.
Khomri, ça a été vite quand même.
Au Parlement, oui, mais
ça a été vite
les
au Parlement,
débats.
Et après les décrets, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Après, il y a les décrets. Les décrets de la loi El Khomri, chose exceptionnelle, ont déjà tous été pris. Ils sont tous sortis. Mmh.
Mais ça fait déjà, entre les premiers rapports, etc., ça fait un certain temps. Donc je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit bon, si je veux avoir une action, une influence, etc. Cela étant, je ne suis pas entièrement d'accord avec Raymond Soubi, c'est-à-dire, c'est malgré tout quand même, on force. Le Parlement, parce que le contenu de la loi d'habilitation n'est pas très détaillé. C'est-à-dire qu'il faudra attendre. Il donne des principes, il donne des orientations, mais il ne donne pas le contenu réel des ordonnances qui viendront un peu plus tard.
On va retourner au standard et je vais redonner la parole à Raymond Soubi. Bonsoir Guy.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Toulouse. Bienvenue.
Oui, j'ai l'impression que tout a été dit là.
Oh non, non, rassurez-vous, on en a encore sous le pied.
Ma question, elle concernait de dire ma question. Ma constatation, c'est que quand on se retrouve avec souvent, donc les lois sont quand même générées après des phases de négociation et tout ce qui va avec, et donc essayer d'atteindre une forme d'équilibre entre les différentes organisations, on va dire représentant la société, des différents syndicats, qu'ils soient patronaux ou de salariés. Et puis quand ça arrive au Parlement, ben il y a les extrémistes de tous bords qui veulent marquer de leur pierre et quelque chose dont l'objectif c'était d'être équilibré à l'origine se retrouve à être complètement dénaturé, poussé dans tous les par un ensemble de personnes qui veulent marquer leur empreinte
sur le texte.
Et faire connaître, voilà.
Merci Guy pour cette question qui repose la question de la vitesse de la démocratie. Je l'ai déjà cité au micro du téléphone sonne. Nous l'avions reçu il y a quelques semaines dans l'émission Questions politiques. L'économiste proche d'Emmanuel Macron, Philippe Aguillon, qui disait que les réformes structurelles devaient être faites au début du quinquennat, qu'il avait un immense respect pour le Parlement, un immense respect pour la démocratie, mais qu'à un moment, il faut trancher et aller vite, d'où les ordonnances Raymond Soubi. Quelle est la bonne vitesse d'une réforme? C'est ça la question.
Moi, je crois que d'abord, ça dépend des réformes, comme dirait Monsieur de la Palice. S'agissant des sujets là qui sont sur la table, pour dire la vérité, c'est ce que disait Dominique Seux il y a un instant, on en discute depuis des années. Et à l'occasion de la loi El Khomri, on en a beaucoup discuté pendant des mois. Donc, ce n'est pas vraiment inconnu. Donc, on n'est pas au départ d'une réforme qu'on va inventer. Bon. En fait, ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est « j'arrive, j'ai eu un programme pendant la campagne électorale, qui d'ailleurs prévoyait expressément ce qu'il veut mettre dans les ordonnances. Le peuple m'a donné la légitimité par le vote. Et par conséquent, j'ai la légitimité, indépendamment de l'habilitation du Parlement, de procéder par ordonnance. Alors, est-ce que cela exclut la concertation ou la négociation? La négociation, oui, si par négociation, on entend que des organisations syndicales et ou patronales devraient signer un texte préalablement à la loi, ce qui s'est fait quelquefois dans le passé. Je crois que c'est exclu, parce que, d'abord, elles n'en veulent pas.
C'est surtout pour ça, c'est pas tellement qu'on n'a pas
le temps.
Sous
le contrôle de Mme Descac, elles n'ont aucune envie, et je les comprends, d'assumer cette responsabilité, donc pas de négociation. Donc il s'agit d'une concertation, dans laquelle il y a un débat, mais dans lequel, en définitive, le pouvoir politique prend le dernier et seul la responsabilité, en prenant des sujets sur lesquels il a évolué, des propositions des organisations syndicales et ou patronales, et des sujets sur lesquels il refuse de prendre. Donc, en fait, la responsabilité finale de la décision, c'est le président de la République et le gouvernement. Et si je peux me permettre de faire un pari sur ce qui va se passer, là, mais peut-être vais-je perdre, il va se passer que Emmanuel Macron, puis le Premier ministre et le ministre du Travail vont discuter avec les organisations syndicales. Il y aura un certain nombre de points, on verra peut-être lesquels tout à l'heure, sur lesquels Emmanuel Macron ne pourra pas céder parce qu'il y tient et qu'il les répète depuis des années. d'autres sur lesquels il y aura une concertation, et les organisations syndicales, très légitimement, diront « Ah, c'est pas l'idéal pour nous, il y a des points sur lesquels le gouvernement a tort et nous ne le suivons pas, et puis il y a eu quand même des pas en avant qui ont été faits. » Je crois que le scénario qui est en train de s'inscrire devant nous ressemble un peu à ça.
Une question supplémentaire, Raymond Soubi. On voit bien ce qui est sous-jacent à la question des ordonnances, c'est la question du déni de démocratie, au fond. Il passe en force, c'est comme ça qu'on dit. Vous étiez conseiller social de Nicolas Sarkozy, qui était réputé vouloir aller vite et qui ne voyait pas d'inconvénient à passer en force. Pourquoi n'a-t-il pas réformé par ordonnance? J'ai l'impression que c'est quelque chose à la mode, les ordonnances.
Parce que sur le droit du travail, nous sortions d'une période qui était la loi Larcher, n'insiste pas, qui donnait une priorité aux partenaires sociaux pour négocier sur tout sujet concernant le droit de travail, pour faire simple. Et par conséquent, il a tenu à ce que, dès le départ, cette procédure soit suivie. Elle a été suivie sur deux sujets. D'une part sur l'emploi, la loi sur l'emploi de janvier 2008 résulte d'un accord national interprofessionnel, séparation à l'amiable, etc. Et la loi qui a suivi quelques mois après et qui a consacré la réforme de la représentativité a suivi non pas un accord interprofessionnel, mais une position commune, ce qui est une forme d'accord entre les parties. Donc, il a décidé de procéder en mettant en avant et d'abord le dialogue social compte tenu à ce qu'on aurait pu penser de son
attitude. Juste un mot, Véronique Descac, le débat a déjà eu lieu, disait Raymond Soubi, sur tous les sujets qui vont être traités par ordonnance. Ça fait des années que le débat a lieu. Là, maintenant, on tranche simplement en début de quinquennat.
Ça fait non seulement des années qu'on parle des questions de réforme du marché du travail, mais ça fait des années qu'on les fait aussi. Alors, on les fait petit à petit. Raymond Soubi a dit en 2008, on a fait des choses. On a refait des choses en 2013 avec la loi de sécurisation de l'emploi. On a fait la loi El Khomri en 2016. Ça montre qu'il faut trouver un espèce de juste équilibre entre le temps long qui est nécessaire pour l'acceptation des réformes, parce que nous, on est profondément persuadés que des réformes de fond, elles ne fonctionnent au fond que si le corps social qui les met en œuvre, qui les vit tous les jours, les accepte. Et puis, la vitesse, je ne suis pas ennemi de dire il y a certains sujets, aujourd'hui, il reste 2-3 sujets, on voit bien lesquels. Et en particulier, à cette question du barème prud'homme, il y a la question des périmètres du licenciement. Pourquoi il reste que 2-3 sujets? C'est parce qu'on a fait quand même le gros du travail dans les années précédentes. Et donc, il y a ce temps long qui est nécessaire. Et puis, il y a, en début de mandat, je comprends l'idée du fait qu'il faut peut-être faire vite ce qui reste à faire pour assurer après aux acteurs aussi une certaine stabilité. C'est-à-dire qu'on a à un moment besoin de se peser. Nous, les représentants du personnel, nous, dans les entreprises, ils nous disent ça va maintenant. Ça fait des années qu'on a des réformes, des procédures de consultation, etc.
On n'a pas le temps de les diriger.
On n'a pas le temps de les évaluer, ce qui n'est pas une petite affaire, que déjà, il faut qu'on recommence. Donc, il faut un moment se dire, bon, bah, maintenant, on met le truc à plat et puis on a de la stabilité pour plusieurs années.
Dominique,
la première, dire que la vitesse sur un déni de démocratie est quelque chose d'assez curieux, il suffit de prendre un exemple très concret.
Je la pose, c'est une question que je pose.
Non, quel est le texte qui est adopté le plus rapidement au Parlement chaque année? Le budget. 70 jours. 1200 milliards d'euros entre la sécurité sociale et l'État. Alors que certains textes qui prévoient des choses bien plus minuscules prennent un certain temps. Je crois qu'il y a une demande globale d'accélération de l'action publique, évidemment en respectant à la fois le formalisme et le débat démocratique. Ça, c'est le premier point. Ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que la CFDT ne dit pas il n'y a plus rien à faire sur le droit du travail. Et donc, on voit bien que se dessine peut-être à la fois un terrain de discussion, de négociation, concertation, tout ce qu'on veut, mais qu'il y a des consensus qui peuvent peut-être enfin se dresser. Alors après, la question c'est, est-ce que les réformes qui ont été faites en 2004, en 2008, en 2011, ont été efficaces ou pas sur l'emploi? Voilà, est-ce que les réformes du droit du travail sont les plus efficaces pour l'emploi?
Vu le résultat, non.
Ah, oh, bah, si, on peut. Alors, on peut estimer.
Enfin, attendez. Je parle là du taux de chômage. Enfin, vous voyez, si ça a été efficace pour l'emploi, je ne sais pas.
Et coup de chômeur en France. On ne peut pas attendre d'une réforme du marché du travail.
Non, mais là, on a dit des réformes depuis 2003.
On ne peut pas attendre de ces réformes-là qu'elles compensent le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'activité, que notre tissu économique ne s'est pas suffisamment transformé pour répondre aux enjeux de la mondialisation, de la construction européenne, etc. Ça, la réforme du marché du travail, c'est un outil quand l'économie va bien. Quand l'économie ne va pas bien, la réforme du marché du travail, la plus belle soit-elle, ne crée pas des emplois.
Donc dire, on attend de cette réforme la facilité, la possibilité de créer des emplois, tant qu'il n'y a pas de croissance, c'est un faux argument.
Ce qu'on attend, nous, de cette réforme, et je crois que ce que tout le monde attend de cette réforme, c'est deux choses. Premièrement, qu'elle donne de l'agilité aux entreprises pour s'adapter aux nouveaux enjeux économiques, et deuxièmement, qu'elle donne de la sécurisation aux salariés. C'est les deux qu'il faut faire ensemble, c'est ça une bonne réforme du marché du travail.
Oui, moi, je crois qu'une réforme du droit du travail en tant que telle, seule, ne suffit pas à recréer des emplois et à relancer la machine. Il y a bien d'autres mesures, qui sont des mesures fiscales, etc. De la même manière, c'est pas une mesure totalement sociale, comme vous le dites très bien, il y a tout un aspect de sécurisation des parcours professionnels. En fait, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle la flex-sécurité. Donner plus de flexibilité aux entreprises et plus de sécurité aux salariés. Le problème dans le calendrier actuel, c'est que le plus de flexibilité, les ordonnances, les célèbres ordonnances dont nous parlions, il vient tout de suite, alors que le plus de sécurité, il est encore un peu incertain, indécis. Il a fait des déclarations et il reste à construire. Et donc, il faudrait que dans le temps, au moment où les chefs d'entreprise auront plus de flexibilité, les salariés perçoivent aussi que, d'abord, ils seront les bénéficiaires de cette flexibilité parce que les entreprises seront susceptibles de créer plus d'emplois et que eux, salariés, aussi, auront le moment venu, et le moment doit venir assez tôt, une claire visibilité de en quoi on les aide leur transition et dans leur évolution professionnelle.
Dominique Seux, Véronique Descac.
La question qui est posée, me semble-t-il, par Emmanuel Macron, c'est de dire on va arrêter peut-être de raisonner et de faire de la chirurgie lourde. Ramener le code du travail de 3000 pages à 30 pages, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si certains ultra-libéraux disent aujourd'hui qu'il faut ramener à 30 pages, ça n'a pas de sens. En revanche, est-ce qu'on peut identifier quelques points d'acupuncture, des petits verrous sur le marché du travail qui font que ça ne marche pas très bien? Peut-être que les prud'hommes, les barèmes d'indemnité, ce n'est pas un débat très idéologique, me semble-t-il. C'est un débat pratique.
Il y a un débat de principe, c'est est-ce qu'on continue
Véronique
ou pas
Descac.
D'indemniser totalement le préjudice du salarié. Et donc, c'est ça qui fait que la CFDT s'y oppose.
Ça dépend de l'ampleur du plancher et du plafond. Aussi.
Expliquez-nous les paramètres de cette réforme.
À partir du moment où on met un
plafond. D'où on part et où on va.
Normalement, en droit français, il y a un principe général qui dit que le juge doit indemniser le préjudice en fonction de l'évaluation que le juge fait lui-même du préjudice. Mettre un barème, ça veut dire qu'on interdirait au juge d'indemniser le salarié à hauteur du préjudice qu'il a subi. On est là dans les cas de licenciement irrégulier, je le précise.
C'est-à-dire sans cause réelle ni sérieuse.
Voilà,
c'est ça. Donc on vous vire pour rien.
On vous vire, on se trompait.
En d'autres termes.
On a fait une erreur, on n'aurait pas dû vous virer. Donc le juge, il dit, du coup, faut indemniser le salarié du préjudice qu'il a subi.
Mais ça semble juste.
La plupart des cas, absolument, c'est juste. C'est pour ça que ça nous embête de mettre un barème. Parce que dans la plupart des cas, les montants, c'est quelques mois de salaire, on voit bien ce que c'est. Mais il peut arriver qu'un salarié un préjudice plus grand qu'un autre parce qu'il est plus éloigné de l'emploi, parce qu'il n'a pas eu de formation pendant les 20 ans qu'il a passé dans l'entreprise, parce qu'il a un âge qui fait qu'il aura du mal à retrouver du boulot. Donc le juge, il reste libre aujourd'hui d'indemniser ce qu'il estime être le préjudice du salarié. Ce qui risque d'arriver avec le barème, c'est que du coup, le juge, il est contraint. Il ne pourra pas aller au-dessus d'un certain nombre de mois.
Donc c'est une réforme injuste, Raymond Soubi.
Oui, moi je dirais qu'au niveau des principes, moi je serais assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais au niveau de la réalité, non, parce que c'est une mesure en direction des chefs d'entreprise, disons-le carrément, et même plus spécialement des patrons de PME qui hésitent à embaucher, qui se disent parce que je risque d'ébaucher si j'ai moins de commandes, etc. Et si je sais ce que me coûte plafonnement, pas plus le licenciement, à ce moment-là, j'embaucherai beaucoup plus facilement. Donc, c'est un signal très fort à l'égard des PME. D'ailleurs, il y a un exemple étranger qu'il m'arrive de citer quelquefois, qui est Matteo Renzi. Quand Matteo Renzi a fait sa réforme de l'emploi en Italie, applaudi par tout le monde, il a fait ça.
Non. Matteo Renzi, il a donné
Véronique
de l'argent
Descac
aux
Marc
entreprises pour qu'elles
embauchent.
Non. Ça, ce que vous dites, c'est vrai, mais c'est une mesure complémentaire. J'ajoute un dernier point qui est très présent dans le contexte, c'est que l'Europe entière, l'Union européenne, attend Emmanuel Macron à ses premiers actes. Emmanuel Macron, comme disait Dominique Seux, est attaché à cette mesure depuis, j'allais dire des siècles. Non, simplement depuis quelques années. Bon, il l'a répété tout au long de la campagne électorale. Si, alors qu'il arrive comme président, il ne la prend pas, le signal qu'il donne sur sa crédibilité auprès de tous ses partenaires étrangers Et tous les investisseurs est mauvais. Et c'est la raison pour laquelle, je crois, il ne retirera pas la mesure.
Il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Dominique Seux et Marc.
Les choses telles qu'elles sont. Les décisions des prud'hommes sont parfois aléatoires, quand même, et imprévisibles. À tel point que du côté des entreprises, comme du côté, parfois, des avocats, des salariés, il y a des grosses surprises. Mmh. Donc, c'est vrai, quand c'est aléatoire, ça peut parfois paraître un peu comme de la roulette russe.
Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter.
Bonsoir à tous. Oui, vous avez tous en partie répondu à ma question. C'est que moi, je m'interroge. Je ne comprends pas pourquoi on devrait plafonner des indemnités de licenciement abusif. Si c'est abusif, c'est que ça dépasse le cadre de, enfin, les règles. Donc que c'est illégal et ça revient en fait à mettre une assurance pour des gens qui ne respectent pas les règles. Donc, est-ce que c'est pas plutôt les règles qu'il faudrait changer? Enfin, quelle légitime? Comment est-ce qu'on peut justifier de plafonner un délit?
Mais votre raisonnement est limpide sur le plan logique, intellectuel et même des valeurs, Marc. Merci pour cette question. Bon, voilà, on voit que là, ça rentre en conflit. Hein. Est-ce que c'est un point dur pour la CFDT, ça, dans ce qui est prévu?
Bah oui, c'est un point dur, on l'a expliqué, parce que là, il s'agit d'un principe du droit auquel il est difficile de contrevenir. Et puis, ce que vient de nous expliquer à la fois Dominique Seux et Raymond Soubi, c'est qu'on est dans l'ordre du symbole. On a fait de ce truc, de ce plafonnement, espèce de symbole, un chiffon rouge, il faut faire ça, mais on en arrive à du coup une mesure complètement irrationnelle. On nous explique à longueur de temps que le capitalisme est rationnel et que la main invisible des marchés est rationnelle, et là, on a l'impression que pour faire plaisir aux investisseurs et aux petits patrons qui sont terrorisés par les prud'hommes, il faudrait prendre une mesure à la fois injuste et irrationnelle.
Donc, parole à Raymond Soubi.
Oui, en effet, on peut dire ça, mais on peut dire aussi que la question est le montant auquel on fixera ce plafonnement, comme dirait monsieur de la Palice. Si le plafonnement est bas, en effet, les salariés seront lésés. Si le plafonnement est haut, ce ne sont pas eux qui seront lésés. Donc,
On réforme, à votre avis, pour mettre un plafond haut?
Voilà, donc la question du
lit... C'était une question, hein, Raymond Soubi.
Non, je ne pense pas qu'on réforme aujourd'hui pour mettre un plafond haut, mais rien n'empêche de définir plus tard à quel niveau on met le plafond. Donc ça, c'est un point, je crois, très important. J'ajoute que comme le disait Dominique Seux, il y a une grande variété de jurisprudence sur ces sujets. Entre nous soit dit, c'est un problème en France. C'est qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce que le tribunal va décider. Donc c'est quand même une véritable gêne. En plus, les délais de recours,
c'est pas le principe de la justice,
sont assez longs. Oui, c'est le principe de la justice, mais appliqué à des sujets qui sont sérieux pour les entreprises et pour les salariés. Moi, je crois qu'une justice plus rapide, avec des délais de recours,
une prédabilité plus forte, etc.
Voilà. Possible. Et je pense que si le barème des indemnités est établi de manière équitable, non seulement ça donnera plus de visibilité au chef d'entreprise, mais ça donnera, si vous me permettez, aussi plus de sécurité aux salariés. Donc je ne crois pas qu'en elle-même, la mesure, on peut dire qu'elle soit plus favorable aux entreprises qu'aux salariés.
Dominique Seux,
il peut arriver qu'il y ait des indemnisations, que le chef d'entreprise soit sanctionné parce qu'il y a des erreurs purement formelles. On envoie 24 heures trop tard une lettre de licenciement et derrière... Et donc il y a peut-être une réforme qui serait peut-être plus importante, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur qui a été évoqué par Emmanuel Macron aussi. C'est-à-dire on ne sanctionne pas de la même manière une erreur de fond, enfin un licenciement abusif de fond et une erreur purement matérielle. Après la question qui est... Vous avez tout à fait raison.
Ça fera partie des propositions que fera la CFDT. À ce moment-là, plutôt que de changer le barème, modifions les sanctions ou les indemnisations qui sont versées en cas d'erreur de fond ou d'erreur de forme. Alors, on peut regarder
Je suis juste un commentateur. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est effectivement, est-ce que c'est la mère de toutes les réformes, la question de l'indemnisation...
Ça peut être le père de tous les blocages.
Ou le père de tous les blocages. La mère de toutes les réformes, cette affaire de barème prud'homaux. On a du mal à croire quand même que la France se mobilise entièrement. Alors, du côté de la réforme ou du côté du blocage, là-dessus, est-ce que la question qui doit être posée à Emmanuel Macron, c'est est-ce que c'est la bonne réforme sur laquelle utiliser son capital politique?
Oui, mais comme Dominique Seux est un fin politique, et que moi je ne le suis pas, je lui répondrai que depuis déjà 3 ans, Emmanuel Emmanuel Macron dit plafonnement des indemnités, il est président de la République, ce serait quand même un comble qu'il ne le fît point. Je vais pousser très loin le raisonnement, même si la mesure n'est pas l'idéal de la logique et de la justice, s'il ne le fait point, c'est qu'il se met lui-même en erreur sur le passé.
Son capital politique sera
entamé. Or, un président de la République, en début de mandat, ne peut pas se permettre d'avoir son capital politique.
En tout cas, c'est un discours, c'est récurrent chez les chefs de petites entreprises, cette affaire. Tort ou à raison.
Michel, bonsoir. Bienvenue.
Bonsoir, monsieur Demorand, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et à toutes. Je voudrais faire plusieurs remarques. La première s'adresse à monsieur Dominique Seux, que je considère un peu, et de façon un peu, c'est par flagornerie, mais comme un aliatollah de la compétitivité.
C'est pas de la flagornerie, effectivement. allez-y, Michel.
On parle d'entreprise, compétitivité, mais derrière tout cela, on assiste en ce moment, et l'actualité nous le prouve tous les jours, aux vies qui sont brisées de gens qu'on jette des entreprises sans se soucier de leur lendemain. Alors, moi je veux bien qu'on parle de légèreté pour que des entreprises puissent embaucher, puissent licencier, mais est-ce que l'on se met un tout petit peu à la place de ces gens-là, qui se retrouvent souvent sans rien, sans perspective, et à la NPE. Première remarque. Deuxième remarque, on parle de facilité pour les entreprises aient plus de facilité pour créer des emplois. Mais les jeunes qui sont, par exemple, dans des en pleine précarité, sur des emplois de CDD de 15 jours, etc., comment peuvent-ils prétendre avoir un emploi durable, construire une famille, former une famille, construire leur avenir, acheter une maison, consommer, puisqu'on nous pousse à consommer, comment peuvent-ils le faire alors qu'ils ne sont pas solvables et ne risquent pas de l'être avant de nombreuses années? Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui m'interpellent. J'entends des discours lénifiants de gens qui sont bien installés dans leur vie, qui ne risquent absolument rien, eux, qui ne risquent pas de se faire virer, et on discute d'emploi, de facilité de licenciement, de plafonnement d'indemnité, etc.
Michel, bien reçu. On va faire tourner la parole en studio. Véronique Descac, que pouvez-vous répondre à notre auditeur?
D'abord qu'il a raison, cette insécurité, les salariés, ils la vivent au quotidien, qu'ils soient salariés, qu'ils soient demandeurs d'emploi, et même quand ils sont dans des entreprises stables. Moi, je suis frappée de l'enquête qu'on a fait à la CFDT qui s'appelle Parlons Travail, quand on demande aux gens, même ceux qui sont en emploi, ce qui leur fait le plus peur, il y a la réorganisation de mon entreprise, il y a qu'on me demande de faire des choses qui ne sont pas conformes avec mon éthique au travail, en gros, il y a le licenciement. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que qu'on soit précaire, même quand on n'est pas précaire, il y a tellement de précarité incrustée dans le pays avec 5 millions de chômeurs, avec la pauvreté qui augmente, on en a tous proche de nous dans nos familles, cette peur du chômage, elle est terrible et elle paralyse un petit peu les gens. Donc c'est pour ça que nous, on insiste beaucoup sur le volet sécurisation des parcours, sécurité, et que ce volet sécurité pour nous, il repose sur trois piliers, qui hélas, comme l'a dit Raymond Soubi, viendront un peu après les histoires des prud'hommes, c'est l'assurance chômage, c'est-à-dire comment on s'assure que quand on a perdu son emploi, on a un niveau d'indemnisation correct qui vous permette de vous réinsérer dans l'emploi, de ne pas vous en éloigner. Le deuxième pilier, c'est le binôme formation-accompagnement, c'est-à-dire la formation professionnelle qui vous aide, et y compris qui accompagne la transformation des entreprises. Les entreprises, elles doivent changer d'activité. Il ne s'agit pas de sanctuariser une entreprise dans l'activité qu'elle fait aujourd'hui. Si elle doit changer d'activité, elle doit en changer. Mais il faut accompagner les salariés par de la formation pour qu'ils aient des nouveaux métiers. Et puis le troisième pilier, c'est le compte personnel d'activité, qui est un pilier qui vient d'exister, qu'on vient de créer dans la loi travail, avec des droits, notamment à protection sociale, qu'il faudra renforcer pour tous les gens qui travaillent, soit salarié ou non salarié.
Dominique Seux.
Bon, je ne sais pas si je suis un ayatollah de la compétitivité, mais
ce débat.
La compétitivité est quelque chose d'important pour que les entreprises survivent. La France est quand même un pays qui a 10% de chômeurs, c'est un des taux les plus élevés de l'Union européenne parmi les grands pays, et donc il n'y a pas de quoi être satisfait. Évidemment, la question, c'est de savoir si on arrive à trouver des consensus, et la voie réformiste permet d'avoir des deals du donnant-donnant. Et tout ce qui vient d'être évoqué, ça va effectivement dans ce sens-là, que ce soit le compte personnel d'activité, que ce soit la formation, avant l'entrée sur le marché du travail ou pendant la vie active, évidemment, il faut progresser. Mais on ne peut pas passer à côté de l'idée que les entreprises doivent être compétitives. Il y a un point sur lequel l'auditeur a entièrement raison, c'est qu'il y a une responsabilité des entreprises vis-à-vis des jeunes qui entrent sur le marché du travail qui est énorme et qu'elles ne mesurent pas. Quand on regarde les votes du premier tour de la présidentielle et qu'on voit tous ceux, notamment chez les plus jeunes, qui rejettent le système économique tel qu'il fonctionne, j'ai envie de dire d'une formule un peu brutale, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises ou une forme d'abus du système économique qui fabrique des mélenchonistes et du rejet chez des générations entières du système économique. Il faut que les entreprises en aient absolument conscience.
Les jeunes qui ont voté d'abord Jean-Luc Mélenchon et ensuite Front National. Raymond Soubi.
Oui, sur les jeunes, qui est un sujet tout à fait central, parce que c'est notre avenir et puis c'est un sujet très important. On voit très bien aujourd'hui qu'il y a deux catégories de jeunes. Il y a les jeunes qui sont diplômés, qui ont un taux de chômage 4-5% aujourd'hui, quasiment pas en taux de chômage. De toutes les enquêtes de la PEC qui s'occupe des cadres le montrent, il n'y a pas de taux de chômage. Et en revanche, pour ceux qui n'ont pas de qualification, qui sont sortis sans rien en fait du système de l'éducation, alors il y a un taux de chômage considérable. Et il n'y a pas de relais suffisant de l'alternance avec les entreprises. Et là, il y a une responsabilité collective, d'abord de l'État à travers l'éducation nationale. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne, c'est un problème central, l'éducation, les premières formations, dès l'école élémentaire, parce qu'on, lorsqu'on suit les cohortes, puis l'école élémentaire, on voit que les gens qui en sortent mal, eh bien, ne rentrent pas bien sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un sujet formidable. Et puis ensuite, pour les personnes qui sont moins jeunes, il y a, dans la vie, on va avoir plusieurs emplois et de nature différente. Donc, il faut accompagner les gens. Et pour l'instant, la réforme sur le compte personnel d'activité dont parlait Madame Descac il y a un instant, en fait, très peu de gens savent concrètement en quoi elle consiste. Ne serait-ce parce qu'on ne le sait pas nous-mêmes. Je veux dire opérationnellement. Donc, il y a un boulot formidable à laquelle tout le monde doit se mettre, qui consiste à dire quels sont les dispositifs qu'on va en pratique et opérationnellement mettre en place là-dessus. Alors, sans dans le programme d'Emmanuel Macron, il faudrait que ça vienne assez vite.
Bernard, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que j'ai suivi des cours de droit du travail à la fac et on évoquait les différentes sources du droit. Et je crois qu'il y avait eu une dissertation, enfin un sujet de droit du travail, sur les accords au niveau de l'entreprise. Parce qu'en fait, notre professeur, qui était Antoine Lyon-Camp, qui est assez réputé dans ce domaine, mettait l'accent sur le fait que dans l'entreprise, eh bien, l'individu est tout seul face à son employeur. Il veut rester dans les bonnes grâces de son employeur et il risque d'accepter des choses qui seront préjudiciables pour lui, pour son équilibre, pour sa famille. Parce qu'il se dit, si je commence à émettre des oppositions face à mon employeur, même s'il a une approche qui n'est pas très juste, et chacun dans notre quotidien, on a des fois des gens qui sont un peu obtus et qui ont des approches assez injustes, eh bien, il risque de se soumettre à des choses qu'il va regretter. Et tout ce qui était décidé à un niveau beaucoup plus élevé, au niveau des branches, qui a apporté des avantages aux gens, eh bien, tout ça risque de disparaître, sans dire qu'au niveau des entreprises, il n'y a pas toujours la représentation syndicale qui existe. Et des fois, c'est d'ailleurs des représentations un peu bidons. Donc, ça va être vraiment au détriment des individus. Et chacun dans son quotidien, même si les gens sont une fibre plus patronale, eh bien, des fois, ils ont eu affaire à des interlocuteurs qui n'étaient pas arrangeants et qui n'avaient pas une approche très réaliste des choses.
Merci beaucoup, Bernard, pour votre intervention et la figure du maître Lyon-Camp est passée dans ce studio grâce à vous, Véronique Descac.
Oui, alors d'abord, quand on parle d'accord d'entreprise, on ne parle pas d'un accord entre un salarié et son employeur qui ne sont effectivement pas à armes égales. On parle bien d'un accord avec les représentants du personnel et la CFDT est très attachée au monopole des organisations syndicales, c'est-à-dire au fait que ce soit une organisation syndicale qui négocie un accord avec l'employeur. Pourquoi ? Parce que le représentant du personnel, il est protégé du licenciement, même des sanctions par son statut, et il a aussi l'accompagnement, la formation de son organisation syndicale pour renverser cette différence de rapport
donc
de force.
Donc ça, c'est vraiment pas le référendum d'entreprise.
Ça, c'est pas le référendum, c'est l'accord. La deuxième chose, qui est une nouveauté de la loi El-Khomri, de la loi travail, c'est que désormais, pour que cet accord d'entreprise il existe, il faut qu'il soit majoritaire. C'est-à-dire qu'il faut que l'organisation syndicale qui le signe, ou les organisations syndicales qui le signent, représentent plus de la moitié des salariés. Donc ça, je peux vous dire que ça renverse drôlement le rapport de force et que ça rétablit l'équilibre entre le chef d'entreprise et les partenaires et les organisations syndicales.
Parce qu'on a vu effectivement pendant la campagne présidentielle, défendue notamment par Jean-Luc Mélenchon, mais pas seulement, l'idée que plus on allait vers l'entreprise, plus le rapport de force était défavorable aux salariés.
Mais ça dépend pour quel sujet. Par exemple, si vous négociez les classifications, vaut mieux les négocier dans la branche. Pourquoi ? Parce que ça permet justement de la mobilité entre les métiers et que de la mobilité entre les métiers, c'est dans la branche qu'on l'organise. En revanche, si vous parlez de l'organisation du travail, si vous parlez de votre temps de travail, c'est bien au niveau de l'entreprise que c'est le plus justifié que ça se discute, parce que c'est le salarié et ses représentants qui savent le mieux quelle contrepartie exiger si l'employeur a besoin de tel ou tel aménagement du temps de travail. C'est ni au niveau de la branche, ni encore moins au niveau de la loi, qu'on peut dire la contrepartie utile pour ce salarié dans cet endroit du pays et compte tenu de son métier, c'est celle-là. Non, c'est bien les représentants, des salariés eux-mêmes qui savent mieux ça.
Il reste une minute, Raymond Soubi.
Je crois qu'en effet, la négociation d'entreprise, l'accord d'entreprise, c'est ce qu'il y a dans un monde idéal de mieux. Parce que on traite les sujets par négociation, au plus près des intérêts de l'entreprise, au plus près des aspirations des salariés, c'est idéal. La question qu'il faut quand même se poser de manière opérationnelle, c'est de savoir si en France, on est prêt, dans beaucoup d'entreprises, la réforme est en fait, à négocier de tels accords.
Alors, et à accepter les organisations syndicales partout. Parce qu'il y a des patrons qui donc vous disent pense, OK pour la décentralisation,
je pense que c'est
négo,
un bon cheminement, mais qu'on n'y arrivera pas demain et qu'il faudra des années et beaucoup d'efforts des deux parties pour y parvenir.
En fait, il nous reste une minute là maintenant, Dominique Seux, excusez-moi.
Bien joué, monsieur Nicolas de Morvan.
J'avais mal calculé.
J'ai l'impression que les branches souffrent en France d'une image négative et c'est un peu à tort. Alors peut-être parce qu'elles sont très très nombreuses, trop nombreuses, qu'il y a un travail de regroupement qui est en cours, mais en fait, pour les petites entreprises, pour certains sujets, la branche peut être un bon niveau de négociation. On le regarde toujours avec, vous savez, entre l'État et l'entreprise. L'entreprise, c'est magnifique, l'État c'est formidable. La branche, ça a l'air un peu technique, professionnel, c'est ennuyeux comme tout, mais c'est quand même là qu'on trouve les interlocuteurs qui connaissent le mieux le sujet.
Merci à tous les trois et merci aux très 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 nombreux auditeurs d'Inter qui nous ont téléphoné ce soir. On n'a évidemment pas épuisé le sujet, loin de là, et on y reviendra bien entendu. Raymond Soubi, merci. Vous êtes président des sociétés Alixio et Tadeo, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Merci Véronique Descac, secrétaire générale adjointe de la CFDT. Et merci Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste économique à France Inter. Le journal Laurence Thomas à suivre.